Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. À qui appartient l'air que nous respirons ou l'eau que nous consommons? Qui sont les propriétaires des ressources du sous-sol? À qui appartiennent les grands massifs forestiers de cette planète? À l'heure où ces denrées deviennent rares face à la croissance démographique, où le réchauffement climatique est une réalité chaque jour plus menaçante, ces questions donnent lieu à d'innombrables conférences internationales et débats qui prennent souvent une tournure économique. Une expression vient résumer tout cela, on parle dorénavant, et peut-être en avez-vous entendu parler, des biens communs qui échapperaient à la propriété privée. Que sont exactement ces biens communs? Peuvent-ils échapper à la loi du marché? Comment les gérer? Cette notion porte-t-elle une vision novatrice des politiques économiques qui pourraient être suivies, loin du libéralisme dominant? Voilà quelques-unes des questions que nous allons aborder avec deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Benjamin Coriat.
Bonjour.
Benjamin Coriat, vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris 13, vous êtes membre fondateur du collectif des économistes atterrés et vous êtes l'un des auteurs du livre intitulé « Vers une république des biens communs », publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Avec vous en studio, Kako Nubukpo, bonjour.
Bonjour.
Kako Nubukpo, vous êtes professeur d'économie, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Lomé au Togo. Vous menez parallèlement des recherches au sein du CIRAD, le centre de recherche agronomique pour le développement, et vous venez de publier un livre qui fait pas mal parler de lui en ce moment, qui s'appelle L'urgence africaine, changeons de modèle de croissance, livre publié par les éditions Odile Jacob. Vous y tirer la sonnette d'alarme d'un continent subissant des prédations minières et foncières ou des sorties massives de capitaux, vous estimez que les solutions passent par le contrôle des ressources, ce qui rejoint quelque peu notre thématique des biens communs. Une émission illustrée par quelques reportages, l'un viendra de la Havane avec Domitil Piron, l'autre du Brésil, où nous retrouverons l'envoyé spécial de RFI dans la forêt amazonienne, Oriane Verdier. Cette expression de bien commun s'est retrouvée cette semaine à la une du grand quotidien français Le Monde. Un bien commun, c'est ainsi que le directeur du journal a titré son éditorial. Dans ce papier, il saluait l'accord que venaient de signer les deux actionnaires de référence du journal et qui garantit l'indépendance des rédactions. Jérôme Fenoglio, le directeur du Monde, saluait ce bien commun que constitue l'information libre, portée par nos journaux, nos sites et par la tradition de journalisme de grande qualité. Est-ce que ce bien commun-là a une valeur économique, Benjamin Coriat? Est-ce qu'on parle de quelque chose qui concerne l'économie?
Écoutez, je comprends pourquoi cette notion a été utilisée par le directeur du Monde, mais c'est un peu un abus de langage. C'est-à-dire, c'est plus une image qu'une vraie réalité.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bien commun en matière économique?
Alors voilà. Alors, pour définir un bien commun, il faut d'abord définir les communs. Alors, très vite, les communs, c'est une notion qui nous vient de l'histoire, qui nous vient de l'Angleterre, pour l'essentiel, bien que on ait trouvé des communs un peu partout, c'est ce qu'on appelait les commons. Alors qu'est-ce que c'est les commons dans l'Angleterre du 12e au 18e siècle? C'est des terres non encloses, donc d'accès libre, sur lesquelles les résidents, donc les paysans, les villageois, etc., avaient des droits d'accès et des droits de prélèvement. Donc c'est des forêts, des fleuves, des pâturages, etc., sur lesquels ils pouvaient prélever leur subsistance, c'est-à-dire des fruits, des animaux, du poisson, etc. Et donc, comme il n'y avait pas de propriété privée exclusive, que c'était une propriété de fait partagée, c'est très important, hein, commun et propriété partagée, donc pas du tout exclusive, comme celle du code civil, c'est la même idée, hein. Donc, voilà. Donc, on appelait ça des terres de commons. Voilà. Alors, il y a eu ce qu'on appelait la révolution des enclosures, qui a consisté à privatiser toutes ces terres, et ça y a mis fin. Bon. Et donc, c'est, d'une certaine manière, la fin des communs, première manière. Ensuite, qu'en particulier avec Internet, mais pas seulement, on a eu de nouveau des plateformes avec de l'accès partagé, notamment à des biens informationnels, hein, des banques de données d'informations, d'images, de conseils en matière culinaire, médicale, tout ce que vous voulez. Et donc c'est le grand retour des communs. Voilà pour les communs. Alors, les biens communs maintenant...
Ouais,
donc,
c'est
les,
différent.
C'est différent. Les biens communs, c'est différent. Pourquoi ? Parce que les biens communs...
Alors Benjamin Carrère, vous allez revenir sur les biens communs, mais ces communs-là, ils sont... Ne sont-ils pas toujours d'actualité en Afrique? Il y a les Bien communautés sûr. Villageoises ont la propriété collective des terres, souvent en Afrique, Kakonubukpo.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que cette notion fait écho au mode de vie africain. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, quand Licarl Polanyi...
précisez-nous qui c'est. C'est un grand économiste du XXe siècle.
Et anthropologue hongrois du XXe siècle. Qui a fait un travail remarquable autour du Dahomey, donc l'actuel Bénin, et qui parlait justement des trois principes de la vie, la réciprocité, les échanges et la redistribution. Et on voit bien cette idée de commun. Et pour Karl Polanyi, d'ailleurs, l'Occident aurait basculé dans une forme d'autodestruction à partir du moment où on a voté en 1834 en Angleterre, ce qu'on appelait l'acte de Spinham Land, qui mettait fin à la loi sur les pauvres, en fait. Et donc, c'est intéressant de voir que l'Angleterre revient, mais aussi le mode de vie africain autour de la question des communs.
Mais ces communs-là, ils existent toujours en Afrique?
Ah oui, les communs existent d'autant plus en Afrique que nous avons deux spécificités actuelles en Afrique, c'est ce qu'on appelle la défaillance de l'État et la défaillance du marché. Et donc, tout ce qui est hors État, tout ce qui est hors marché, a une résonance particulière en Afrique. Donc, les communs en Afrique aujourd'hui servent quelque part même de supplétif à la défaillance du marché, à la défaillance de l'État.
Alors, Benjamin Coriat, revenons au bien commun. Qu'est-ce que c'est exactement et quelle est la différence entre les communs et les biens communs?
Alors, donc, si vous voulez, la différence, on peut l'indiquer de la manière suivante. Les communs, je vous ai dit, c'est de l'accès partagé, mais d'une manière générale, ce sont plutôt des communautés restreintes qui ont accès aux communs. Hein, parce que voilà, par exemple, la terre est épuisable, les poissons d'un fleuve sont épuisables. On peut pas donner un accès universel, vous voyez. Donc les communs, voilà, c'est un accès restreint. Les biens communs, on aurait presque tendance à rajouter les biens communs, les vrais biens communs. On aurait presque tendance à rajouter les biens communs globaux. C'est le climat, l'océan, la calotte glaciaire, tout à l'heure on va parler sans doute de l'Amazonie, ce sont des biens qui concernent des très grands nombres, pour ne pas dire l'universalité, et qui ont, c'est un peu technique mais je vais quand même le dire, des externalités positives ou négatives très fortes. Ça veut dire que la détérioration du climat, c'est une externalité négative qui affecte l'ensemble de la planète. La bonne santé des populations, c'est une externalité positive, parce que c'est la fin des... En tout cas, la limitation des épidémies, etc. Voilà. Donc, tous ces biens qui concernent des grands nombres et avec des externalités positives ou négatives fortes ont vocation à devenir des biens communs.
Alors, on va tout de suite prendre un exemple. On va se rendre dans la forêt amazonienne, qui est au centre des préoccupations. Cette année, plus que jamais, les feux en Amazonie ont été à la une de l'actualité. Tout le monde s'en souvient et au cœur de querelles diplomatiques. Le président Macron a estimé que l'Amazonie, poumon du monde, était un bien commun. Et son homologue brésilien, Bolsonaro, revendique, lui, la propriété de 60% des forêts qui se trouvent sur son territoire. Il l'a encore redit à la tribune des Nations Unies il y a quelques jours. Sur place au Brésil, les discours d'encouragement à l'exploitation commerciale des terres attise les tensions entre agriculteurs et populations autochtones. Dans l'état de Rondônia, les femmes indigènes tentent de se mobiliser contre la destruction de ces terres sacrées. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, de l'envoyé spécial de RFI, Oriane Verdier.
Pour se rendre au rassemblement des guerrières indigènes de l'état de Rondônia, le van qui transporte les participantes chemine plusieurs heures sur une piste de terre rouge au milieu de la forêt amazonienne. Accroché à un arbre, une pancarte, interdiction d'entrée. Ma voisine m'explique.
C'est ici que commencent les terres. À partir de ce point, seules les personnes autorisées par les indigènes locaux peuvent entrer et poursuivre leur route. La pancarte précise le nom des terres, la loi qui les délimite et l'interdiction d'entrer, mais aussi de pêcher et de chasser.
Nous arrivons enfin dans une grande clairière, sous un toit de paille. Une centaine de femmes sont réunies autour de Narabaré, une représentante de la cause indigène au visage peint.
Déjà en tant que candidat, notre président actuel s'est clairement positionné contre nous. Il n'y a pas de réelle proposition pour trouver une manière de combattre la destruction en Amazonie. Le problème, ce ne sont pas uniquement les incendies. Ça passe également par l'accaparement de nos terres, le vol d'arbres protégés. C'est aussi la tentative au sein du Congrès de faire passer des lois qui légalisent la commercialisation et l'exploitation minière de nos terres. Le Brésil ne prend pas soin de l'Amazonie. C'est nous qui sommes en train de donner notre vie pour l'Amazonie. Ce sont nos fils qui sont là, nos maris. C'est notre maison qui est ici. C'est nous qui savons ce que nous ressentons.
Pour l'occasion, le préfet de la zone a fait le déplacement. Il a une analyse bien différente de la situation.
Cette polémique qui circule à l'étranger, ce ne sont que des informations qui n'existent pas dans la réalité. Les incendies, ça existe, mais ça existe depuis des années. C'est un phénomène naturel, propre aux périodes de sécheresse. Mais tout le monde prend grand soin de l'Amazonie. L'agriculteur doit travailler et exister, bien sûr. Les gens ont besoin de manger. Surtout que le Brésil est un des plus grands producteurs de céréales et de viande. Il faut bien que l'on puisse planter et récolter pour répondre à la demande, non seulement nationale, mais aussi du monde entier. Ceci étant, tout le monde reste conscient de la nécessité de respecter l'environnement. Chaque producteur respecte et préserve une partie de la forêt sur ses terres, tout comme les indigènes. Ce qu'on raconte dans les médias à l'étranger n'est que politique. C'est répugnant et ça arrive dans le monde entier.
Walter Lee n'a pas perdu un mot des paroles du préfet. Son visage exprime l'indignation.
Là où mon peuple vit, où les Puruboras vivent, c'est entouré d'agriculteurs. Nous voyons des gens qui détruisent, qui brûlent. L'agence de contrôle du gouvernement vient et leur inflige des amendes, mais ils ne payent pas. C'est pour ça qu'ils continuent à détruire et brûler. Nous, nous recevons des menaces parce qu'on lutte pour que notre terre soit délimitée. Ils disent, vous voulez prendre nos terres? Si vous n'arrêtez pas, vous allez mourir, on va tuer votre famille. Nous, on leur dit, vous pouvez nous tuer, mais si un Purubora tombe, la lutte continuera.
Mais alors comment ça se passe concrètement? Les agriculteurs brûlent autour ou sur vos terres?
Non, parce que là, c'est ainsi. Là où nous habitons,
là où nous habitons, les terres Purubora ont été délimitées par le maréchal Rondon lui-même. Mais ensuite, le gouvernement est arrivé et les a divisées en parcelles de terrain pour les donner à d'autres personnes. Là où nous habitons, c'est mon beau-père qui a acheté la parcelle. Donc maintenant, il y a des parcelles où nous vivons. Et pour aller voir une autre famille, il faut passer par le terrain d'un agriculteur. Et certains, quand ils regardent les archives, ils voient que la terre à l'origine appartient au Purubora. Alors ils se disent, je ne vais plus travailler ici, je vais vendre. Alors ils vendent à quelqu'un d'autre. Et le nouveau propriétaire s'énerve à son tour parce qu'il vient d'acheter et il a peur de perdre ses terres face à nous. De notre côté, depuis 1919, la loi dit que ces terres sont Purubora grâce au maréchal Rondon. Alors oui, il y a des gens qui vivent là depuis 10, 20 ans. Mais ça fait combien de temps qu'on a octroyé ces terres aux Purubora? Bien plus longtemps.
Ici, chaque peuple fait face à des problématiques différentes. Certains sont au cœur de conflits territoriaux, d'autres tentent de chasser les braconniers qui volent arbres, animaux et richesses naturelles sur leurs terres. Ivaneide Bandeira a créé une association il y a 30 ans pour accompagner chaque cause. Face à la nouvelle politique brésilienne, elle ne voit d'alliés qu'à l'étranger.
Je pense que le salut de l'Amazonie dépend pour beaucoup du soutien international, parce qu'aujourd'hui, il ne brûle pas que les terres indigènes. Je pense qu'il est fondamental que le secteur agroalimentaire s'exprime en faveur de l'Amazonie. C'est déjà le cas, j'ai vu certaines entreprises qui font des choses pour l'Amazonie. C'est un moyen de protéger l'Amazonie.
Ivaneide et ses camarades de lutte craignent pourtant que la pression internationale retombe. Il aura fallu que la capitale économique brésilienne, São Paulo, soit couverte de fumée pour attirer les regards du monde en août dernier. Pourtant, la déforestation progresse, elle, depuis plus d'une quarantaine d'années.
Un reportage signé Oriane Verdier dans Éco d'ici Éco d'ailleurs sur RFI. Benjamin Coriat, est-ce que ça illustre ce combat entre agriculteurs arrivés il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, et puis ces populations qui sont présentes depuis des temps immémoriaux, en fait, les Porubora, qui se sont vus attribuer les terres il y a un siècle, en 1919. Est-ce que ça illustre le débat, le combat entre ce que vous appelez les biens communs et puis la propriété privée?
Absolument. Mais si vous voulez, pour bien comprendre les enjeux en Amazonie ou ailleurs, il y a un élément qu'il faut rajouter. Le propre des, et vous voyez que vous allez voir que la distinction entre commun et bien commun est très utile. Le propre des communs, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est des communautés restreintes avec des droits d'accès, de prélèvement, etc. Ce qui est très important dans un commun, c'est que, et ce qui caractérise un commun, c'est qu'un commun, il est gouverné. Ça veut dire qu'il y a des droits et des obligations des gens qui ont accès au commun. Et c'est ça qui permet de le préserver. Parce que vous avez des droits de prélèvement, mais pas infinis, qui sont liés à votre famille, à votre présence sur le territoire, etc. Et donc, le commun, je répète, il est gouverné. Et il y a même souvent une structure de gouvernance, hein, qui assure le respect des droits et des obligations. En Inde, par exemple, il y a certains communs, hein, qui sont des pâturages, qui sont ouverts à plusieurs types de bergers, bien, bon, et il y a des gardiens armés pour vérifier que les différents bergers utilisent leurs droits et pas davantage, parce qu'il faut préserver le commun. Bien, le propre des biens communs, donc, qui concernent des très grands nombres, etc., c'est que jusqu'à présent, ils ne sont pas gouvernés. Et c'est ce qu'on vient de voir là. C'est la foire d'empoigne. C'est-à-dire qu'il y a des communautés anciennes qui ont des droits d'usage très anciens, qu'elles utilisent, etc. Et puis on a des nouveaux venus, qui sont des capitalistes de la terre, soutenus par le gouvernement, qui envahissent différentes parties de l'Amazonie, qui viennent au contact et en contradiction avec les droits des communautés locales. Et puis enfin, on pourrait imaginer qu'il y a une espèce de droit de l'humanité à préserver ce poumon. Ce droit est pas véritablement reconnu. Donc, le problème des biens communs, c'est d'abord de les déclarer tels. Hein ? Il suffit pas, comme Fotorino, de dire « le monde est un bien commun ». Non, pas du
comme
tout.
Comme Fenoglio.
Fenoglio. Oui, absolument. Il suffit pas de dire « ah ben c'est un bien commun mon œil », j'ai envie de dire. Un bien commun, ça se déclare tel. Et après, ça se gouverne tel. Alors, juste un dernier mot. La notion la plus proche, c'est celle de patrimoine commun de l'humanité. Celle-là, elle existe, la notion de patrimoine commun de l'humanité. Mais le problème de la notion de patrimoine commun de l'humanité, c'est que même quand c'est reconnu, c'est les États qui sont en charge d'assurer la protection du patrimoine commun de l'humanité. Et donc, compte tenu de ce que sont les États aujourd'hui, dans beaucoup de cas, le patrimoine commun n'est pas préservé. Donc, je finis. Le problème de l'Amazonie illustre parfaitement le besoin de créer un statut juridique de bien commun et d'assurer sa gouvernance. Et moi, je peux comprendre, c'est mon dernier mot, je peux comprendre
Vous parlerez qu'encore dans l'émission.
Bien sûr. Mais je peux comprendre que les Brésiliens disent « on est prêt, je ne parle pas de Bolsonaro, la position traditionnelle des Brésiliens, on est prêt à protéger ce patrimoine commun, mais on demande des compensations. Ils ont raison.
Benjamin Coriat, dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI, nous parlons de cette notion qui se propage chez les économistes, celle des biens communs, avec donc Benjamin Coriat, professeur d'économie à l'Université Paris 13, co-auteur du livre intitulé « Vers une république des biens communs », publié aux éditions Les Liens qui libèrent, et avec Kako Nubukpo, doyen de la faculté d'économie et de gestion de l'Université de Lomé au Togo, auteur du livre « L'urgence africaine ». Aux éditions Odile Jacob, Kako Nubukpo, je vous ai vu prendre force note en écoutant ce reportage d'Oriane Verdier. Est-ce que l'économiste africain, togolais que vous êtes, se sent concerné directement par ce qui se passe en Amazonie? Et est-ce que cette problématique de l'appropriation collective de l'humanité, par l'humanité, de ce bien qui est une forêt, un massif forestier énorme, peut résonner en Afrique?
Oui, d'autant plus que ce que nous observons en Afrique, c'est une forte hybridation institutionnelle, c'est-à-dire entre la manière dont s'organisaient les communautés et le droit occidental, le droit moderne. Et ça crée un certain nombre d'incertitudes. Et moi, j'ai envie de citer, à titre d'exemple, la manière remarquable dont, en République démocratique du Congo, s'organisent des assurés, c'est un peu le système d'adduction d'eau dans la banlieue de Kinshasa. Ouais. Et là, c'est vraiment les communs.
Racontez-nous ce qui s'y passe.
Mais disons qu'ils se sont mis ensemble pour gérer l'adduction d'eau. Donc, les fontaines d'eau, le fait de venir s'approvisionner. Et peut-être qu'il y a un élément qu'on n'a pas encore suffisamment mis en évidence dans notre discussion, c'est la distinction entre un bien public et un bien commun.
Oui, on allait
donc,
y
dire.
Oui.
Voilà, dans le bien public, vous avez la non-rivalité. Donc, quand je consomme, ça n'empêche pas mon voisin de consommer. Et puis, la non-exclusion. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je bénéficie de l'éclairage public que personne d'autre ne pourra accéder à l'éclairage public. Dans les biens communs, il y a quand même cette idée que les ressources ne sont pas illimitées. Et donc, il y a la modalité de partage et de répartition de la ressource. Et ça, c'est ce qu'ils arrivent à faire en RDC, mais aussi au Mali, dans la zone office du Niger. Par rapport, vous savez, la Banque mondiale a demandé qu'on mette en place des titres fonciers pour la production de riz, les terres rizicoles. On a constaté que ça ne marchait pas parce qu'il y avait beaucoup de prédation. Entre guillemets, les grandes personnes venaient acheter beaucoup de titres fonciers, alors qu'ils n'étaient pas forcément producteurs de riz. Et du coup, le syndicat d'exploitation de l'Office du Niger s'est mis d'accord pour mobiliser ses adhérents pour une idée qui me semble intéressante, c'est obtenir des baux de 30 ans et donc rétrocéder ensuite. Donc, on utilise la terre pour produire le riz, mais la terre ne vous appartient pas. Et enfin, les communautés de pêcheurs au Sénégal font exactement la même chose. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus novateur que ce qu'on imagine. Et je voulais insister là-dessus.
Benjamin Coriat, entre bien public et bien commun, quelle est la nuance que vous évoquiez tout à l'heure?
Elle a été très bien précisée par Kako. Ouais. Le bien commun, c'est bien montré dans les exemples qui ont été développés, c'est gouverné, et c'est gouverné par des communautés. En l'occurrence, l'eau à Kinshasa, la seule chose qu'il faut rajouter, c'est que ce sont des communautés de quartier qui, devant l'incurie de l'État à leur assurer de l'eau potable, ont eux-mêmes pris en charge la collecte, le creusement de puits, l'établissement de fontaines et la distribution de l'eau. Et tout ça est gouverné par la communauté de quartier. Donc, c'est un cas typique dans lequel on a transformé l'approvisionnement d'eau en un commun. L'eau elle-même étant un bien commun général, si je peux dire, mais qui a été assuré ici. Dans le cas des biens publics, la définition qui a été donnée par Kako, c'est celle, on va dire, théorique des biens publics. C'est celle de Samuelson. En général, ces biens publics...
Paul Samuelson, un prix Nobel d'économie.
Oui,
américain.
Prix Nobel d'économie. Enfin, c'est une définition classique en économie. Le problème des biens publics, c'est qu'en général, ils sont gérés par l'État. Bon, et là où il y a un problème, c'est que il y a eu une dérive au cours du temps, et que l'État, qui aurait dû être simple gestionnaire d'un bien qui appartient au public, au peuple, s'est progressivement attribué la propriété de ces biens. Et ce sont devenus des biens de propriété publique. Et donc, on donnait lieu à toutes sortes d'abus. On va peut-être parler d'aéroports de Paris tout à l'heure, mais...
Vous savez
donc
tout.
Oui, parce que c'est un cas typique. Je reviens sur la question des communs et des biens communs. Le propre des communs et des biens communs, c'est qu'ils sont gouvernés, et qu'ils sont gouvernés de manière quelquefois complexe, mais dans lesquels les communautés d'usagers on voit au chapitre sur la manière dont le bien est géré, ce qui distingue de la situation dans laquelle c'est de la propriété publique.
Mais alors, on parle beaucoup de titres de propriété publique ou privée, ce sont des notions juridiques. En quoi est-ce que cela concerne le fonctionnement de l'économie, Benjamin Coriat?
Ah ben c'est fondamental. Ça veut dire que soit que on ait des formes entrepreneuriales qui concernent des communs. Hein. C'est le cas, par exemple, des terres partagées.
L'office du Niger, non pas.
Voilà, ça c'est une forme, ça a une forme entrepreneuriale. Soit qu'il s'agisse biens qui sont des biens communs, type l'eau, le climat, type, ça a des impacts gigantesques sur l'économie.
Est-ce que cela veut dire qu'il y a toute une série de biens, de denrées, de zones qui échappent à l'échange, aux lois du marché?
Oui, absolument, absolument. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que les biens communs doivent être décrétés tels. À partir du moment où ils sont décrétés tels, ils deviennent hors marché. Alors, ça ne veut pas dire hors économie. Il peut y avoir un coût pour les produire et il faut trouver un moyen de couvrir ce coût. Mais hors marché, c'est-à-dire, c'est pas le marché qui va établir le coût, c'est pas le marché qui va décider qui y a accès ou pas. Si vous voulez, dans la Rome antique, la notion de res communes, donc de bien commun, sitôt qu'un bien était déclaré bien commun, c'était le cas de l'eau, il devenait inappropriable, il devenait
hors commerce, incessible.
Bon, et on organisait les formes d'accès partagées à ce bien. Et par exemple, sur l'eau était un bien commun. Tout étranger de passage, même de passage, toute personne avait un droit à l'eau. Et il avait le droit, comment dire, tout détenteur d'eau qui recevait sur son territoire quelqu'un qui passait, c'était un bien commun. Donc, il devait lui fournir de l'eau. Et la loi le garantissait. Donc, si vous voulez passer du statut de bien public géré par l'État à bien commun sur lesquels des contraintes s'imposent sur l'État lui-même pour assurer le service du bien commun, c'est un vrai changement.
Alors, on va voir un pays où la propriété publique est partout, c'est Cuba. Avec son système d'économie socialiste, le pays a une conception toute particulière de la propriété. Il faut dire que le rôle du marché et la propriété privée ont été reconnus seulement grâce à une réforme de la Constitution qui date du début de cette année 2019. La notion de propriété terrienne est donc bien différente qu'ailleurs dans le monde et tout le système agricole repose sur une terre dont l'État a le monopole. À La Havane, nous rejoignons la correspondante de RFI, Domitille Piron.
La terre à celui qui la travaille. Dès 1959, la réforme agraire du régime castriste se base sur ce principe. Plus de 100 000 paysans se voient à l'époque distribuer des terres et aujourd'hui, 9% des agriculteurs cubains sont ainsi propriétaires de leurs terrains sur lesquels on voit encore généralement plus de bœufs pour l'attraction que de machines agricoles. Le grand propriétaire terrien à Cuba, c'est donc l'État, au nom du peuple qui possède près de 80% des terres cultivables, des terres qui ont la particularité ici d'être rouges, entourées d'une végétation verdoyante. Après le triomphe de la Révolution, pour augmenter la productivité, Fidel Castro souhaite mettre en place de grandes coopératives étatiques. Ces fermes d'État modernisent et diversifient ainsi l'agriculture cubaine, mais elles sont gérées par une planification centrale. Les employés agricoles et administrateurs sont donc peu impliqués et le départ des soviétiques et la période spéciale des années 90 porteront presque un coup fatal à ce modèle agricole. Nombre de ces fermes non rentables ont donc disparu du paysage agricole cubain, mais encore aujourd'hui, dans des champs à perte de vue, ces coopératives étatiques asiatiques ont le monopole de la production de tabac et de sucre, du sucre que Cuba a dû importer pour sa propre consommation en 2018. Depuis les années 90, le pays cherche donc à développer d'autres modèles agricoles. Toujours avec cette idée de la terre à celui qui la travaille, l'État a donc donné en usufruit 23% de ses terres cultivables. Des terres en friche, ils en ont fait des bananeraies, des champs de manioc, de patates douces, de poivrons, tomates et haricots, et des prés pour les vaches laitières et les cochons. Voilà un peu le panorama de la production cubaine. Mais cet usufruit pour les paysans reste limité à 20 ans et à une vingtaine d'hectares.
Domitil Piron, depuis la Havane, Kakonubukpo, est-ce qu'on est dans les biens communs, là, à Cuba, à la Havane? Est-ce que ça recoupe la définition que vous en donnez avec Benjamin Coriat?
Disons qu'on a deux limites. Vous avez d'un côté la charge néolibérale, vis-à-vis de laquelle les communs apparaissent comme des alternatives crédibles, mais aussi vous pouvez avoir une charge socialisante ou communisante très forte, vis-à-vis de laquelle les communs pourront également apparaître comme des alternatives crédibles. En tout état de cause, ce que j'observe aujourd'hui et ce qui donne force aux communs, c'est finalement l'impératif de préserver la diversité. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez la vision de la francophonie numérique, c'est clairement dit que l'objectif du numérique dans l'espace francophone, c'est assurer la diversité dans une société de l'information mondialisée. Et donc, ça renvoie à tous les combats sur les logiciels libres, par exemple. L'idée des cours en ligne ouverts et massifs. Mais donc, il y a cette idée de préservation de la diversité, mais en même temps, il y a, et je pense que c'est quelque chose qui devrait nous préoccuper, finalement l'idée que les communs pourraient atténuer simplement la charge néolibérale. Et là, je crois qu'il faut faire attention à l'instrumentalisation. Je peux vous donner un exemple que j'ai vécu personnellement, c'est le Fonds monétaire international, quand j'étais directeur de la francophonie économique et numérique.
Alors, l'Organisation internationale de la francophonie.
Exactement, qui vient me voir pour me dire, nous voulons traduire en français nos cours de programmation financière et les mettre à disposition de tous les cadres des administrations francophones. Je dis, d'accord, mais j'aimerais avoir un droit de regard sur le contenu de la traduction. Et là, ils disent, ah non, pas du tout. Et donc là, c'est clairement une charge néolibérale qui va passer par le truchement de quelque chose de partagé, les cours en ligne ouverts et massifs, mais qui ne va pas forcément aller dans le sens de l'intérêt général. Donc c'est très important d'avoir en tête que nous sommes dans un environnement beaucoup plus conflictuel qu'il n'y paraît.
Benjamin Coriat, je voudrais qu'on revienne sur ce reportage cubain. Est-ce que la propriété des terres par l'État, telle qu'elle est décrite là, recoupe votre définition des biens communs? Est-ce que le bien commun, c'est le communisme?
Non, bien sûr que non. Alors, c'est un point très important. Bon, d'abord, je voudrais appuyer ce que dit Kako. Hein. Je crois que il y a effectivement deux travers, hein, qui est le tout marché et le tout État. Et le commun n'existe que lorsqu'il échappe à ces travers et lorsque des gouvernances sont mises en place qui assurent un pouvoir des usagers et des producteurs.
Mais est-ce que le commun peut devenir un régime international général? Est-ce que c'est votre ambition? Est-ce que vous visez à substituer une gouvernance par les communs ou des communs à cette économie libérale de marché capitaliste que nous connaissons aujourd'hui?
La réponse est oui. Je suis de ceux qui pense que à travers les communs, demain la déclaration des biens communs et la mise en place de formes de gouvernance de biens communs, on va vers une alternative. Alors ça va pas se faire la semaine prochaine, hein. Je suis pas du tout naïf, hein. Mais la réponse est oui. Et pour répondre à votre question antérieure, les communs surgissent après la fin du communisme, c'est-à-dire après, 90, c'est la fin du tout État, c'est la fin du modèle communiste qui a échoué, hein, pour des tas de raisons liées à la démocratie, liées à l'économie, etc. Bien, et on a eu à ce moment-là l'offensive néolibérale autour du tout marché sur le thème, vous voyez bien que le communisme ne marche pas, etc. Bien. Et puis voilà, maintenant on est déjà dans un autre moment, dans un moment dans lequel le néolibéralisme a produit des excès absolument terribles en matière d'inégalité, en matière de spoliation des ressources naturelles. Si vous voulez, moi, vous voyez, on dit, ah, les entreprises, il y a la responsabilité sociale des entreprises, elles participent à la lutte contre la pollution, etc. Je veux dire, j'aimerais bien, mais je vais vous donner un seul chiffre. 70% du financement des banques, des grandes banques internationales, hein, de Goldman Sachs à la BNP, hein, 70% du financement des banques qui va à l'énergie va aux hydrocarbures. C'est avec eux qu'on va faire la transition écologique. Faut qu'on arrête de se moquer du monde.
Mais est-ce que vous voulez qu'on nationalise les banques?
Oui, en tout cas, il faudra une forme de contrôle social sur les banques qui fait que ça soit impossible.
Pourquoi? Les banques doivent devenir des biens communs, des communs?
À un certain moment, oui, parce que elles traitent d'une chose qui est la monnaie et qui est par excellence un bien commun. On est dans une situation dans laquelle la monnaie est un bien commun, un bien partagé. Sa montée, sa descente, sa gestion, etc. a des effets catastrophique sur l'ensemble de la population, et c'est géré par des acteurs privés. Ça va pas. Bien sûr que ça va pas.
C'est géré par les banques centrales.
Non. Les banques centrales sont l'un des acteurs qui passent par derrière une fois que la banque privée a échoué. Une fois que Goldman Sachs, etc., ont inondé le monde de subprimes, une fois qu'ils ont fabriqué une catastrophe mondiale pour leurs propres intérêts, parce que se sont beaucoup enrichis à travers... Alors à ce moment-là, il y a la voiture balai qui est la banque centrale. Non, ce système ne va pas, et le bien commun monnaie doit être géré différemment. Donc, je reviens à votre question. Oui, bien sûr, il faut que la monnaie soit gérée tout à fait différemment. Et, comment dire, après l'échec du tout état et après l'échec du néolibéralisme, on est dedans. C'est pas encore, malheureusement, la conscience n'est pas encore suffisamment grande, mais elle a beaucoup grandi. Oui, on va rentrer dans l'époque des communs et des biens communs.
Oui, et je voudrais appuyer...
Vous êtes partisan aussi de la considération des banques comme un bien commun? De la monnaie,
et je crois d'ailleurs que le succès des monnaies complémentaires illustre cette volonté manifestée de plus en plus par les citoyens d'avoir un contrôle sur la monnaie. Et je rappelle qu'il y a beaucoup de réflexions à l'heure actuelle avec ce qu'on appelle la monnaie fondante. Oui. De Silvio Gesell, hein, qui dit il faudrait que les réserves de change des banques centrales soient rémunérées à des taux d'intérêt négatifs. Ça va obliger les banques centrales à prêter encore plus. Et puis, ce qu'on appelle aussi les monnaies fiscales, c'est-à-dire qu'on sorte du monopole de l'émission monétaire de la part des banques commerciales pour que l'État retrouve au moins pour ce qui renvoie au paiement d'impôts, à ce qu'on appelle la monnaie fiscale. Donc je crois que là, nous sommes dans une période clé où on voit que l'idée des communs peut faire sens. Bon, une fois qu'on a dit ça, moi j'ai quand même une préoccupation, c'est que on a l'impression qu'il y a une relative étroitesse du monde des communs. Et je sais que c'est pas forcément vrai, mais on se dit que ce sont des communautés, de petites communautés. Et donc, il y a l'enjeu du passage à l'échelle. Si on veut que cette vision des communs soit au cœur de la régulation mondiale. Donc, comment on fait le passage à l'échelle? Puisque le commun, par définition, c'est pas l'État central qui, lui, va plutôt travailler sur les biens publics. Donc, je crois que là, il y a quand même quelque chose à creuser encore.
Alors, on va voir un phénomène qui est en train de se passer ici en France, un débat autour de la privatisation de la société des aéroports de Paris. un projet qui prévoit l'augmentation de la part du privé dans le contrôle de cette société des ADP. Il y a les pour et les contre. Écoutez ce dossier signé Jeanne Richard, tiré des archives de RFI, qui avait été diffusé initialement le 10 avril dernier.
En privatisant ADP, l'État, qui cherche à renflouer ses caisses, toucherait plusieurs milliards d'euros. Et pour Nicolas Polissen, délégué général de l'Union des aéroports français, cela permettrait également de favoriser le développement de l'entreprise.
La croissance du transport aérien impose des investissements importants en matière aéroportuaire, d'où l'intérêt de la privatisation, de l'exploitation de certains aéroports, parce que parfois l'État n'a pas forcément l'argent pour investir, et les privatisations permettent justement de trouver des fonds pour investir dans l'augmentation des capacités aériennes.
Faux, selon l'économiste David Kaila, opposant à la privatisation.
L'État emprunte à des taux extrêmement faibles et peut tout à fait financer le développement d'ADP, parce que quand on emprunte à des taux très faibles pour investir dans un patrimoine ou dans un actif qui va rapporter 30 fois plus, eh bien on s'enrichit, on ne s'appauvrit pas. Les gains attendus sont importants et vont augmenter, et il n'y a aucune raison de laisser ces gains à un opérateur privé alors que l'État a financé l'essentiel de l'infrastructure.
L'entreprise rapporte en effet déjà entre 100 et 200 millions d'euros de rente chaque année à l'État, et le plan de développement d'ADP prévoit 40 à 50% de croissance d'ici à 2025.
Continuons cette plongée dans les archives de RFI. Nous sommes maintenant le 18 juin 2019, il y a quelques mois. Pour faire obstacle à ce qui est présenté comme une privatisation, une confiscation par quelques-uns d'un bien commun, une pétition est lancée en vue de déclencher un référendum national. Gabriel Maréchaux.
Voilà l'arme.
C'est le député François Ruffin qui le dit.
Ils ont peur de votre tablette, peur de votre ordinateur.
S'engager avec son clic et sa souris, c'est ce qu'a fait le créateur du compte Twitter Aide Référendum. Ni encarté ni militant, il a eu du mal à signer et partage des conseils pour aider les internautes.
C'est extrêmement compliqué. Certaines personnes sont assez frustrées de ne pas pouvoir signer à cause d'un outil qui a été mal conçu.
Une semaine après sa création, plus d'un million de personnes suivent son compte, des internautes aux profils très divers.
Beaucoup de Français le prennent à cœur. Déjà, on l'a vu avec Notre-Dame, ils sont assez attachés à leur patrimoine, et les aéroports de Paris, ça fait partie du patrimoine français quand même. Et en plus de ça, beaucoup de personnes ne veulent pas revivre ce qui s'est passé avec les autoroutes.
Pour Raymond, gilet jaune parisien, la mobilisation se fera, elle, dans l'espace public.
La première chose qu'on a faite, c'était d'organiser une réunion publique explicative à la fois sur le versant économique et sur le versant juridique. Et après, nous allons retourner dès samedi prochain sur notre rond-point avec un ordinateur permettant aux personnes de remplir le questionnaire.
Et même si le mouvement des Gilets jaunes s'essouffle, Raymond est optimiste.
C'est une bataille qui a une dimension concrète, puisque au bout, la possibilité de gagner quelque chose.
Pour voir si le combat aboutira, réponse dans 9 mois, date de clôture du site qui devra avoir atteint 4,7 millions de signatures.
Benjamin Coriat, est-ce que ce débat, ce combat, cette opposition entre pour et contre autour des aéroports de Paris illustre votre position et votre combat pour la... Alors, je ne dirais pas la communisation, parce que... Mais non, pour la généralisation des communs.
Oui, oui, absolument. On est en plein dans le sujet. Bon, d'abord, il y a une chose qu'il faut dire sur Aéroport de Paris. C'est que si Aéroport de Paris est l'enjeu de telle concupiscence, hein, si je peux dire, de la part du privé, c'est que c'est une formidable affaire. C'est-à-dire que l'État stratège français a su, au bon moment, construire des aéroports dans une zone qui est donc pas très éloignée de Paris, et dans lequel les possibilités de développement sont immenses. C'est la raison pour laquelle l'aéroport de Paris a une valeur économique si grande, c'est que en cette époque de développement du transport aérien massif, avec les problèmes écologiques que ça pose, mais ça, c'est une autre question. Bien, donc, il peut se développer. La plupart des grands aéroports, notamment européens, sont bloqués parce que ils sont situés dans des zones qui sont déjà urbanisées. Donc, il serait temps que l'État tire les bénéfices de sa bonne gestion, si je peux dire, et de sa bonne vision stratégique au moment de l'implantation de l'aéroport de Paris. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un point d'exercice de la souveraineté publique. Hein, c'est le lieu du contrôle des arrivées, des départs, etc. Donc, à la fois pour des raisons économiques et pour des raisons des souverainetés, c'est quelque chose qui ne doit pas passer entre les mains du privé, qui tirerait les marrons du feu, alors que c'est le moment pour les stratèges et les investisseurs d'en tirer les bénéfices. Ça, c'est un premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est que les communs, c'est pas le tout État. Hein, les communs, c'est des formes de gouvernance, je crois que j'ai longuement insisté là-dessus, dans laquelle les collectifs d'usagers, de salariés, de bénéficiaires, etc., ont droit à la parole. Et c'est vrai, alors si vous me poussez dans mes derniers retranchements, que à l'occasion de la préservation de ce bien commun, ça serait bien que sa gouvernance soit modifiée, de manière à ce que, indépendamment de ceux qui sont déjà impliqués dans la gouvernance, c'est-à-dire d'une part des acteurs publics, des acteurs régaliens, des acteurs privés, parce que c'est aussi une immense galerie marchande, Aéroport de Paris, il y ait une représentation des salariés qui travaillent sur le site et une bien plus forte représentation des usagers qui ont leur mot à dire sur l'aéroport. Et à ce moment-là, le bien public deviendrait un bien commun. Et pour moi, effectivement, ça serait la situation idéale.
Kako Nubukpo, vous soutenez cette position ?
Oui, bien sûr. Vous savez,
Est-ce que l'aéroport de Lomé au Togo devrait être géré de la même manière ?
Mais vous savez, dans mon ouvrage L'urgence africaine, je dis que ce qui est caractéristique de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle subit les programmes d'ajustement structurel que nous avons subis il y a 30 ans avec la vague de privatisation. Et nous, on a fait la meilleure expérience. C'est quoi la privatisation ? C'est la privatisation des bénéfices et la socialisation des pertes. C'est ça ce qui va se passer. Et c'est pour ça qu'il faut se battre contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Une fois que j'ai dit ça, et je sais que Benjamin est d'accord avec moi, les communs, c'est pas le communautarisme. Et je sais que Benjamin Corrier insiste souvent là-dessus pour dire on est dans des états de droit. Il ne faut pas que les communautés s'arrogent des espèces de droits divins pour échapper à l'ordre général. Donc, je crois qu'il faut toujours faire la part des choses entre ce qui relève de la spécificité des communs, c'est-à-dire un partage équitable des ressources, et ce qui relève de la souveraineté qui est incarnée par l'État républicain.
Benjamin Coriat, la souveraineté, elle doit rester quand même de l'État républicain.
Bien entendu. Si vous voulez, il faut distinguer de la nature des ressources qui sont en jeu. Bien. Et encore, parce que lorsqu'on a des champs qui sont mis en commun, ou prenons un autre exemple de l'eau qui est mise en commun. Il y a l'exemple de Kinshasa, mais il y a l'exemple très fameux de Cochabamba.
En Bolivie,
où il y a eu une guerre contre la privatisation, et devant l'incurie de l'État, ce sont des coopératives de services publics. Vous voyez un peu la notion ? Des coopératives de services publics. On est sur une autre planète, là, hein ? Bon, donc ce sont des coopératives de services publics assurent la gestion et la distribution de l'eau. Bon, donc, dans des cas comme cela, il faut bien sûr que les communautés concernées et qui ont pris en main la délivrance du service y trouvent leur compte. Mais il faut veiller aussi à ce que, alors c'est le bien commun et la dimension publique générale, à ce que les nappes phréatiques ne soient pas asséchées de manière rapide ou inconsidérée. Donc, je veux dire, y compris dans des communs qui gèrent des aspects locaux, la dimension collective doit être préservée. Si vous voulez, dans chaque commun doit présider l'idée que tout commun est un commun du commun.
Ça commence à devenir un peu compliqué, et donc on fera une autre émission un autre jour pour parler des communs des communs.
Avec grand plaisir.
En espérant que le commun des mortels y comprenne quelque chose. Benjamin Coriat, Kako Nubukpo, merci d'avoir accepté l'invitation de RFI. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez nous réécouter sur le site internet www.rfi.fr ou via l'application Pure Radio sur votre smartphone. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.